Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et les principales actualités de ce mardi 29 décembre. Le centre de Sydney fermé pour la Saint-Sylvestre, les autorités appellent la population à observer le feu d'artifice du Nouvel An à la télévision. En Europe, l'accord sur le Brexit signé avec la Grande-Bretagne a été approuvé par les 27. Il entrera en vigueur dès le 1er janvier. Et au Mali, 3 soldats français ont été tués. Leur véhicule a été détruit en entrant en contact avec un engin explosif. Le front de mer sur le port de Sydney va être fermé à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, qui se débat pour enrayer le retour du coronavirus dans la ville, implore pour sa part la population à regarder le feu d'artifice du Nouvel An à la télévision. Pour entrer dans le CBD, il faudra un permis spécial et il ne sera délivré qu'à ceux qui ont une réservation au restaurant dans ce quartier ou à ceux qui passent la soirée chez des amis qui habitent le secteur. La première ministre de l'État, Gladys Berejiklian, estime que ces mesures, tout comme le confinement qui est toujours en place actuellement dans le secteur des Northern Beaches, sont essentielles.
We don't want to create any super spreading events on New Year's Eve, which then ruins it for everybody across the state moving forward. Again, can I say to people, please reduce your mobility. Don't move around unless you absolutely have to. Don't travel around unless you absolutely have to.
Au-delà de Sydney, le Parlement australien devrait ouvrir une enquête parlementaire pour évaluer la réponse des services de l'État et des États d'ailleurs à la pandémie. C'est en tout cas l'avis de l'ancien dirigeant de l'État du Victoria, Jeff Kennett. Il a expliqué sur Radio 3AW que l'objectif d'une telle enquête ne serait pas de désigner des boucs émissaires ou ceux qui auraient commis des erreurs, mais au contraire de tirer des leçons qui pourraient servir aux générations futures.
When you have another medical virus or similar occurrence in the future, so that when it arrives, you open up the drawer, you pull out the aid memoir and say, well, this is what they did in 2020. These are the sorts of things we should have in place immediately. This is what we should be doing.
Pour sa part, l'Organisation mondiale de la santé appelle à plus de détermination pour mettre fin à la pandémie. Elle appelle également à garder espoir. Maria Van Kerkhove, qui fait partie de l'OMS, assure que même les récentes mutations du virus qui sont apparues en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud peuvent être endiguées grâce aux mesures actuelles et notamment grâce aux campagnes de vaccination qui viennent de débuter dans certaines parties du monde.
These mutations will continue to happen. And we need even more resolve. I know everyone is tired. I know that, you know, we're all kind of fed up with this and we want this to be over. But this should push us even further to have even more resolve to end this pandemic. Vaccines and vaccinations are coming online. This is another incredibly powerful tool. We cannot lose this battle now.
Et justement, l'Afrique du Sud, on en parlait un instant, eh bien, là-bas, le président Cyril Ramaphosa, vient d'annoncer la prolongation du couvre-feu, mais aussi la mise en place de nouvelles restrictions. Ces annonces ont été formulées à la télévision alors que l'Afrique du Sud dénombre désormais plus d'un million de cas positifs au Covid-19. Parmi les nouvelles mesures, le port du masque obligatoire, interdiction de vendre de l'alcool et les rassemblements sont également interdits à l'intérieur comme à l'extérieur pour une durée de 14 jours. Des mesures sévères mais indispensables d'après le président Ramaphosa.
The nationwide curfew will be extended from 9 p.m. to 6 a.m. Apart from permitted workers and for medical and security emergencies, nobody, and that means nobody, is allowed outside their place of residence during curfew.
Et la situation n'est guère meilleure au Royaume-Uni, où les autorités viennent de recenser en une seule journée plus de 41 000 nouveaux cas. C'est un record depuis le début de la pandémie. Un point sur lequel, en revanche, il y a du progrès pour Londres, c'est sur la question du Brexit. Les ambassadeurs des 27 États membres de l'Union européenne ont approuvé à l'unanimité l'accord conclu avec la Grande-Bretagne et qui doit entrer en vigueur au 1er janvier. Entre-temps, l'accord doit être ratifié par le Parlement britannique demain, mercredi, mais le ministre Michael Gove n'est pas du tout inquiet puisque selon lui, tous les points de friction ont désormais été résolus.
The big political battles over Brexit, I think, are settled now. That means that we can look forward with confidence. And yeah, it's always the case that that governments are making sure that their relations with friends and neighbours are kept in good repair. But the big arguments over Brexit, they're now resolved.
5 ans et 8 mois de prison, c'est la peine à laquelle a été condamnée une militante saoudienne. Déjà incarcérée par le régime depuis 2018, elle avait mené une campagne visant à réclamer le droit de conduire pour les femmes, un droit depuis accordé par le royaume. La famille et les proches de cette militante dénoncent cette condamnation prononcée sur la base d'une loi antiterroriste, un verdict qui choque également Rofnag Begum de l'association Human Rights Watch.
What they have done is to now state to the world that they consider women's rights activism to be an act of terrorism. Now, the Saudi authorities have done this in the past with human rights activists, which we have seen being sentenced and being treated as terrorists. But now we are seeing the same thing being done with women's rights activists. So the hypocrisy is incredibly loud.
Et une autre condamnation qui fait polémique, ça se passe cette fois en Chine. Un tribunal vient de condamner à 4 ans de prison un journaliste citoyen qui avait couvert l'émergence de la pandémie de coronavirus dans la ville de Wuhan. Zhang Zan, c'est son nom, est déjà incarcéré depuis le mois de mai. Il avait même effectué une grève de la faim pour protester contre son arrestation. Désormais condamné par la justice chinoise, l'un de ses avocats est très inquiet pour sa santé.
She isn't well. She's been on hunger strike for a while and has lost a lot of weight. She's very weak, both physically and mentally. She thinks she's innocent. She was just exercising her civil rights and considers her detention and sentencing illegal. She just can't accept it. She never wanted to be in court, and the judge didn't allow her to speak much during the trial today, so she spoke very little.
Et toujours en Chine, un autre procès emblématique vient de s'ouvrir, cette fois dans la ville de Shenzhen. Dans le box des accusés, 10 militants pro-démocratie hongkongais qui avaient tenté de s'enfuir il y a quelques mois par bateau. Ce procès est emblématique car il débute tout juste 6 mois après l'adoption par la Chine d'une loi considérée comme liberticide sur la sécurité nationale. On va écouter les explications de Yelena Tomic pour RFI.
Le 23 août, 12 hommes sont interceptés en mer alors qu'ils tentent de fuir Hong Kong pour rejoindre Taïwan. Accusés de passage illégal de la frontière, sur les 10 prévenus, 2 risquent jusqu'à 7 ans de prison pour avoir organisé la fuite du groupe. 2 autres, mineurs au moment des faits, seront jugés séparément à une date encore inconnue. Certains des prévenus sont également poursuivis pour avoir participé aux immenses manifestations pro-démocratie qui ont secoué Hong Kong l'an dernier. Le procès se tient à huis clos. Aucun journaliste étranger n'a pu accéder à la salle d'audience, prétendument faute de place, tout comme les diplomates d'une dizaine de pays occidentaux, dont la France. L'ambassade des États-Unis à Pékin a demandé la libération immédiate des 12 militants en affirmant que leur seul crime était d'avoir fui la tyrannie. Un commentaire qui a provoqué l'ire de Pékin, qui a exhorté Washington à arrêter toute ingérence dans les affaires intérieures du pays.
Et on change de continent, direction la République centrafricaine, où le dépouillement des bulletins de vote se poursuit après les élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées le 26 décembre. Malgré les tensions qui règnent actuellement dans le pays, le scrutin a pu se dérouler normalement et sans incident dans environ la moitié du pays, un motif de satisfaction pour les observateurs internationaux. On fait le point à Bangui avec Charlotte Cosset pour RFI.
La tenue de ce scrutin est une victoire, insiste l'ensemble des acteurs, notamment la ministre de la Défense, Marie-Noël Koyara.
Nous insistons encore pour féliciter le peuple centrafricain qui hier s'est mobilisé pour ce vote sanction en venant élire le président et les députés.
36 sous-préfectures ont pu voter normalement, 6 partiellement, 29 sous-préfectures n'ont pu aller au vote. En tout, ce sont 800 bureaux de vote qui n'ont pas pu fonctionner. Un bilan satisfaisant pour le ministre de l'administration du territoire, Augustin Yongana Yaoté.
La crise est encore présente en République centrafricaine. On ne pouvait pas s'attendre à un vote de 100%. Mais toujours est-il que la majorité des localités ont pu voter. Même si quelque part il y a eu des résistances, mais nous pensons que la démocratie a depuis le dessus.
Pas de bilan du nombre de votants en tout. À 7 heures, des dépouillements sont encore en cours. Les procès-verbaux en train d'être acheminés. Mathias Moruba, le président de l'Autorité nationale des élections.
Il y en a qui viendront par la route, ceux qui sont à côté, mais d'autres par avion. Et la MINUSCA a mobilisé les avions pour aider dans le transfert des résultats de l'intérieur du pays au niveau de la capitale.
Aucun seuil limite de participation n'est imposé par la loi pour valider le scrutin, mais la possibilité d'élections partielles dans les zones qui n'ont pas pu voter est évoquée. Charlotte Cossé, Bangui, RFI.
Afrique toujours, l'armée française endeuillée après la mort de 3 soldats au Mali. Leur véhicule a été détruit en entrant en contact avec un engin explosif sur la route. Compte rendu avec Victor Moria de RFI.
Ces 3 soldats de l'opération Barkhane appartenaient au 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse. Selon les officiels de l'armée, ils participaient ce matin à une mission d'escorte dans le désert de Gourma, entre Ombori et Gossi, lorsque le véhicule blindé à bord duquel ils circulaient a été touché, je cite, par un engin explosif improvisé. Malgré l'intervention de l'équipe médicale, les 3 hommes n'ont pas pu être réanimés. D'après le chef d'état-major des armées françaises, les forces de Barkhane se sont immédiatement déployés au sol, tout comme dans les airs, pour sécuriser la zone. Les soldats intervenaient, selon le ministère des Armées, dans une zone où des groupes terroristes attaquent les populations civiles et menacent la stabilité régionale. Dans son communiqué, la présidence de la République rappelle toute la détermination de la France à poursuivre la lutte contre le terrorisme. Depuis le début des opérations militaires au Mali, avec Serval en 2013 et Barkhane depuis 2014, 47 soldats français ont désormais perdu la vie.
Allez, direction maintenant le Brésil, où la polémique enfle autour de Neymar. Le footballeur qui évolue au Paris Saint-Germain a prévu d'organiser à Rio une énorme fête pour les Nouvel An avec plus de 500 invités à une fiesta qui doit durer 5 jours d'affilée. La nouvelle passe mal dans ce pays où le coronavirus a déjà fait plus de 190 000 morts, d'autant plus que l'attaquant vedette du PSG jouit déjà d'une assez mauvaise réputation dans son pays. À Rio, le reportage de Sarah Cozzalino pour Radio France Internationale.
Une fois de plus, Neymar démontre qu'il est totalement déconnecté de la réalité. L'événement qui se déroule du 25 décembre au 1er janvier est une véritable fête macabre, selon les journaux brésiliens.
Ce sont 500 personnes qui peuvent contaminer des milliers de personnes. C'est complètement absurde de faire ça en pleine pandémie. C'est jouer avec la vie des autres. Il est complètement inconscient et il n'a aucun amour pour son prochain.
Alors que les événements publics sont annulés, à l'image du traditionnel Nouvel An sur les plages de Copacabana, Neymar fait figure de contre-exemple.
Son attitude déçoit beaucoup les Brésiliens. Alors que beaucoup font attention, d'autres comme lui se payent ce luxe. Il n'en a rien à faire des autres.
L'entourage du joueur a d'abord nié l'existence de la fête. C'est à travers les groupes de musique engagés pour l'événement que la nouvelle a fuité.
Ça ne me surprend pas beaucoup. Neymar a toujours posé aux côtés de Bolsonaro. C'est un mec qui aime les fêtes. Il fait partie de cette nouvelle génération qui a décidé de ne pas respecter les mesures de précaution. Mais 500 personnes, c'est de la provocation.
Face à la polémique, l'entreprise qui organise l'événement a publié un communiqué assurant que la fête sera réduite à 150 personnes et respectera les protocoles sanitaires. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et pour finir ce journal, on jette un œil à la météo du jour en Australie. 39 degrés et grand soleil à Perth, 25 degrés à Adélaïde aujourd'hui sous un ciel partiellement voilé. 22 degrés et du ciel bleu à Melbourne, 23 degrés à Sydney où la journée va être ponctuée par des averses. Espérons que la plus grosse, celle de ce matin, ne sera pas répétée dans la journée. 31 degrés à Brisbane et 31 degrés également à Darwin.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.